Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Heureux de vous retrouver en cette nouvelle année, à mes auditeurs. Nous profitons donc pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de l'année 2023. Beaucoup de santé et de bonheur à vous. Cela dit, ce numéro d'Economia s'intéresse à un instrument et qui permet d'évaluer la dynamique des échanges entre un pays et l'étranger. C'est la balance de paiement, un document dont le rôle vous sera expliqué par notre expert Faustin Onozon, que nous retrouverons dans la rubrique Regard sur la gestion de l'économie nationale. Vous aurez avant cette rubrique l'explication de certains termes en lien avec la balance de paiement et ce sera dans le lexique économique et vers la fin de ce numéro, nous parlerons de bourse avec le coach Kwao Brice dans les tendances de la bourse. Bienvenue à tous.
Le lexique économique.
La balance des paiements.
La balance des paiements est un document qui retrace sous une forme comptable l'ensemble des flux d'actifs réels, des flux financiers et monétaires entre les résidents d'un pays avec ceux de l'étranger, et cela au cours d'une période déterminée.
La balance des opérations courantes.
La balance des opérations courantes est une des composantes aussi de la balance des paiements. C'est concrètement pour un pays donner la somme de sa balance commerciale, c'est-à-dire des flux monétaires résultant donc des échanges de biens et de services de ce pays avec l'étranger. Également de sa balance des revenus et de sa balance des transferts courants.
La balance des capitaux.
La balance des capitaux est un document qui recense les ventes et les achats d'actifs réalisés dans un pays sur une période donnée. Et parmi les transactions enregistrées figurent notamment les investissements directs, les acquisitions d'usines, les achats de terrains et bien d'autres.
Les droits de tirage spéciaux, DTS.
Les DTS, ce sont donc les droits des instruments monétaires internationaux qui ont été créés par le FMI en 1969 et cela pour compléter les réserves officielles existantes des pays membres. Les DTS, il faut le savoir, ont été principalement créés pour remplacer l'or monétaire dans les grandes transactions internationales. Outre son rôle comptable dans le commerce international, le DTS permet d'éviter des va-et-vient de l'or métallique au travers des frontières pour solder les comptes. Les DTS sont alloués donc aux pays membres proportionnellement à leur quote-part au FMI.
Regard sur la gestion économique nationale.
Regard sur la gestion de l'économie nationale avec notre expert, Monsieur Onozon, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Onozon, avec vous encore, nous allons découvrir cet univers de l'économie en nous intéressant à un sujet important aujourd'hui, surtout dans l'aspect macroéconomique, c'est la balance de paiement. La balance de paiement, c'est quoi ?
Merci bien. La balance des paiements, d'une manière tout à fait simple, je dirais que c'est un document de politique économique et financière. Et ce document met l'accent sur toutes les transactions économiques et financières qui se sont déroulées dans un pays au cours de 12 mois, c'est-à-dire une année.
Pourquoi il est important d'avoir un tel document qui retrace un peu les différentes transactions, les échanges? C'est quoi son importance dans le dispositif économique d'un pays?
Je le disais tantôt, c'est un document de politique économique et financière. Et qui parle de politique économique et financière met l'accent sur toutes les dispositions qu'il faut prendre dans un pays en vue, par exemple, de la relance d'une économie ou bien en vue de la gestion d'une économie nationale. Et lorsque vous avez, par exemple, les difficultés de relance, ce document des politiques économiques et financières est important pour prendre les décisions qu'il faut pour pouvoir mettre votre pays sur le droit chemin.
Un document qui s'intéresse aux transactions, qu'est-ce qu'il pourrait traduire justement ?
Il traduit tout ce qui est transactions financières entre un pays et l'étranger sur une période de 12 mois. Lorsque vous dépassez 12 mois, vous n'êtes plus dans le cadre de la balance des paiements, vous êtes dans le cadre de la comptabilité nationale. Mmh. Alors, cette balance comporte plusieurs parties. La première partie, qui est l'une des plus importantes, sinon la plus importante, elle permet de mettre en relief la force économique et financière d'un pays. Et cette partie-là retrace ce qu'on appelle la balance des opérations courantes. Elle retrace toutes les opérations de la balance des opérations courantes. Et au niveau de cette balance-là, on retrouve les opérations d'exportation et d'importation. Et on retrouve aussi tout ce qui est service. Donc le solde de ces opérations d'exportation et d'importation et le solde des opérations qui sont relative aux services au cours d'une année donnée donne ce qu'on appelle la balance des opérations courantes. Et c'est cette balance-là qui en réalité traduit la vitalité, la force économique et financière d'un pays. Et lorsqu'on veut par exemple mettre en exergue ce qu'on appelle la gestion de la monnaie, c'est bien entendu ce premier volet qui est primordial. C'est lui qu'il faut prendre en compte. C'est vrai, après la balance des opérations courantes, nous avons la balance des capitaux, monétaires et non monétaires. Cette balance met en exergue tout ce qui est relatif aux entrées et aux sorties des capitaux au cours d'une année en ce qui concerne un pays. Et puis après ça, on a le solde global de la balance des paiements. Et après ce solde global, nous avons le solde monétaire.
Avant que vous vous intéressiez au solde monétaire, on revient un peu sur l'importance de ce document. On remarque, selon vos explications, que justement un pays a des habitants et comme c'est naturel, ces habitants-là commercent avec d'autres pays. Donc c'est une manière de mesurer ces échanges-là qu'on a entre citoyens d'un pays X, on va parler de la Côte d'Ivoire. C'est toutes ces transactions-là que la balance permet de mesurer pour voir un peu si, on peut le dire communément, on gagne de l'argent ou on en perd, c'est cela?
Oui, c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Mm-hmm. Je vous parlais de la première ligne de la balance des paiements. Mm-hmm. Au-dessus de cette ligne, nous avons ce dont vous êtes en train de parler. Nous avons la balance commerciale,
oui,
la balance qui est la différence entre les exportations et les importations de tous les produits qui entrent sur un territoire donné ou alors qui sortent de ce territoire. Et lorsque les produits sortent du territoire, c'est que vous allez engranger ce qu'on appelle les devises.
Parce voilà. Que c'est les monnaies étrangères.
Exactement. Mm-hmm. Parce que les gens vont payer. Ils ne vont pas payer en francs CFA. Ils vont payer en devises. Mm-hmm. C'est vrai, quelquefois, la monnaie de change ou d'échange, cette monnaie provient quelquefois du contrat commercial que les opérateurs économiques ont entre eux. Mais au-delà de ce contrat commercial, ce qu'il faut voir, c'est que généralement, on paye en devises. Mm-hmm. Et ce sont les devises qui nous intéressent. Et la balance des paiements prend des paiements en devises. Mm-hmm. Et ce sont ces devises, comme je le disais dans les dernières émissions, la particularité de ces devises, c'est de garantir la valeur externe de notre monnaie.
Donc un pays extraverti, un pays ouvert sur le monde, on mesure cela avec cette balance des opérations courantes pour voir un peu que c'est un pays quand même qui réussit à vendre. C'est ça la dynamique d'un pays.
Oui, on va même au-delà. Parce que lorsque vous parlez, par exemple, de la variation d'une production nationale, le taux de croissance macroéconomique, par exemple, mm-hmm. Et c'est pour qu'on vous présente deux taux. Voilà, un pays qui a un taux de croissance de 7% et l'autre aussi a un taux de croissance de 7%. Et on peut vous demander, est-ce que ce taux est solide? Est-ce qu'il est bon? Dès lors où on a atteint un taux de croissance de 7%, on dira que le taux est bon. Mais on peut quand même faire certaines comparaisons. Celui dont le taux relève de la première ligne de la balance des paiements, c'est que son taux provient réellement d'une vitalité économique, c'est-à-dire de sa force économique et financière. Mais quand on quitte cette première ligne et qu'on va au niveau de la deuxième ligne de la balance des paiements, là on parle.
Et qui, on rappelle, la deuxième ligne, c'est laquelle?
Là où on parlera des investissements directs étrangers, des capitaux, ouais. Des rapports bilatéraux, des rapports multilatéraux. Mais vous voyez un peu que ça, c'est sur fond d'action diplomatique.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il y a d'autres dispositions particulières qu'il faut prendre. Il faut s'entendre avec vos voisins, il faut s'entendre avec les autres pays, il faut être cohérent dans ce que vous faites, il faut respecter certaines dispositions en matière des droits ou des lois au plan international. Et dès lors où vous ne respectez pas tout ça, eh bien, il va de soi qu'en matière d'IDE, par exemple, vous perdez certains marchés.
Si
vous
les devez compter, IDE, on les rappelle, c'est les investissements directs
direct étrangers. Ou alors, dans le cadre même des rapports bilatéraux, vous pouvez bénéficier d'un prêt. Un prêt émanant d'un pays ami, par exemple.
C'est cela.
Mais si vous n'avez pas des bonnes dispositions au plan diplomatique avec ce pays, mais il va de soi que cela prenne aussi un coût. Donc, si vous voulez compter sur la deuxième ligne de la balance des paiements, il n'est pas sûr ce taux de croissance que
c'est
vous avez obtenu, voilà,
relations.
Voilà, que ce taux de croissance qui relève en termes de cette deuxième ligne-là soit pourvu d'une satisfaction. Or, de l'autre côté, c'est votre propre force. Ce sont vos propres convictions, ce sont vos propres décisions. Mais lorsque vous excédez cette ligne, vous venez en bas, ben vous dépendez de tout le monde.
Il y a un terme qui nous intrigue. Pourquoi une balance?
Mais balance, ce sont des opérations qu'on effectue entre un pays et l'étranger. Et lorsque vous faites, par exemple, vous vendez votre cacao, peut-être sur la France ou alors au niveau des États-Unis et autres, les fonds qui vont venir vont vous permettre de créditer votre balance des paiements. Et lorsque vous faites des achats des marchandises à l'étranger, les fonds qui vont venir vont vous amener à débiter votre balance des paiements. vous voyez là que ce sont des opérations comptables.
Oui.
C'est un document financier, mais en même temps
crédité, débité.
Débité. Dans l'eau où on dit crédité, débité, c'est qu'il y a une balance quelque part.
Oui, c'est ça.
Et la balance vous permet alors d'avoir un solde qui peut être positif ou bien négatif.
Voilà, justement, vous avez parlé de ce solde-là. Nous parlons du cas ivoirien, pour être concret. Avec ces transactions pour l'année 2022, vous qui êtes économiste, qui avez un regard sur la dynamique du pays, est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire, en termes de positionnement, a une balance assez intéressante?
Oui, pour voir si une balance est positive, il faut aller en bas, hein, tout à fait en bas du document.
Le solde.
Il faut voir le solde. Le solde monétaire. D'abord, le solde global, qui, lui, doit être forcément positif. S'il est positif, c'est que vous avez une bonne balance. Et le solde global et le solde monétaire s'échangent en signe contraire. Une bonne balance doit avoir un solde monétaire négatif. Quand on dit négatif, ça veut dire qu'on peut enlever, on peut soustraire.
Ah.
Si vous n'avez pas d'argent, est-ce que vous pouvez soustraire quelque chose?
Non.
C'est pourquoi on dit négatif. Dès lors où ça devient positif, c'est que vous avez des difficultés. C'est là l'importance d'une balance des paiements. Et si vous avez des difficultés, et étant donné que vous faites partie des pays qui ont des rapports avec des structures, disons des organisations financières internationales comme le Fonds, la Banque mondiale et le Fonds monétaire justement, quand vous avez des problèmes, quand le solde monétaire est positif, c'est que vous avez des problèmes de devises. Il faut nécessairement faire appel à vos amis, à des institutions multilatérales ou bien des institutions avec lesquelles vous faites des transactions. Et donc, dans ce cadre bien précis, lorsque vous avez une balance de paiement, travers des difficultés, c'est-à-dire que vous n'avez pas les devises escomptées pour pouvoir agencer vos opérations financières avec l'étranger, vous vous adressez à des institutions comme le Fonds monétaire international qui va certainement vous prêter de l'argent, comme des DTS, par exemple des DTS spéciaux, et qui vous permettront, ou même alors des devises, pourquoi pas, qui vous permettront d'agencer vos opérations financières avec l'étranger. Parce que si vous n'avez pas de devises, il vous sera difficile d'importer des produits dont vous avez besoin.
Mis le doigt sur un problème. Le manque de devises, il est créé par quoi, généralement?
Alors, lorsqu'on prend une balance, on peut le voir déjà au niveau de la première ligne de la balance des paiements. Vous avez des opérations d'exportation et d'importation des biens et des services.
Oui.
Pour avoir les devises escomptées pour agencer vos opérations de développement, il faudrait que votre balance commerciale soit positive. C'est-à-dire que vos exportations des biens soient supérieures à vos importations de biens. Cela veut dire que vous réalisez une épargne sur l'étranger. Réaliser une épargne sur l'étranger signifie tout simplement qu'on dispose des devises qui doivent vous permettre de garantir, de couvrir la valeur externe de votre monnaie. Chaque année, à la fin de l'année, en fonction de la demande intérieure de monnaie, on met sur pied une masse monétaire en circulation. Mais pour la mettre sur pied, cette masse monétaire en circulation, il faudrait qu'il y ait une garantie. Et cette garantie, ce sont les devises. Et cette garantie est perceptible à partir d'une balance des paiements extérieurs d'un pays. Il y a aussi les services. Et les services, aujourd'hui, sont tellement importants. Ce sont les services, généralement, qui transportent nos devises. Lorsque vous parlez, par exemple, des frettes, vous avez du cacao que vous voulez exporter sur la France. Donc, ce cacao-là, vous devez le transporter par bateau, par exemple.
Oui.
Et si vous n'avez pas un armement pour pouvoir le transporter, il faut dire que le fret fait partie des services. Et cela coûte énormément cher. Et si, par exemple, vous réalisez des transactions financières avec l'étranger et que vous arrivez à avoir des devises très fortes d'une manière importante compte tenu du niveau de vos transactions financières avec l'étranger, il faut voir aussi le cas des services. Les services viendront réduire cette entrée de devises dans la mesure où vous n'avez peut-être pas d'armement et ça va peser lourd dans le décompte final. C'est pourquoi il est bon de développer, en même temps que vous développez vos transactions financières avec l'étranger, surtout au niveau des services, d'avoir des services qui soient pour vous-même. Parce que si vous ne l'avez pas, si vous n'avez pas des services qui soient pour vous-même, il faut dire que cela va représenter un poids sur le niveau de vos transactions financières avec l'étranger.
C'est là la force de beaucoup de pays qui sont des modèles aujourd'hui, des pays asiatiques qui ne sont pas des grands producteurs de produits qu'on connaît, mais qui sont très très avancés en matière de services. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de transactions, c'est un élément clé, surtout dans la balance de paiement.
Oui, surtout pour d'autres pays, pour la plupart des pays africains. Et ces pays ont très souvent une balance des opérations courantes qui est positive, qui est cohérente. Mais compte tenu des services, dont le déficit est même devenu structurel, parce que chaque année, on retrouve ce déficit au niveau de la balance des paiements, ben, il va sans dire que cette balance des opérations courantes, très souvent, devient une balance qui est négative. Et cela jette nécessairement un discrédit sur la gestion de notre politique économique extérieure. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas bien précis, c'est vrai que quand il y a une balance des opérations courantes qui est négative, mais qu'elle soit positive ou négative, surtout quand elle est négative, on fait recours aux investissements directs étrangers, aux investissements liés au portefeuille de l'État, tels que les bons et les obligations du Trésor, etc., etc.
La balance de paiement, c'est un autre sujet. On en reparlera la semaine prochaine, justement dans le même cadre, avec justement notre expert Faustin Onozon, qui nous éclairait un peu sur ce document important des transactions que nous avons, transactions commerciales et bien d'autres aspects. C'est toujours dans l'économie à rester fidèle.
Tendance de la bourse.
Les tendances de la bourse avec M. Kouao, donc expert en question d'investissement en bourse. M. Kouao, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de cette rubrique, les tendances de la bourse, pour parler justement de l'utilisation de cette épargne. Pour nos auditeurs, on va rappeler c'est quoi l'épargne et bien sûr pourquoi il faut l'investir en bourse.
L'épargne, c'est la partie du revenu non consommé, si on veut définir simplement. Quand on prend un revenu, le salaire notamment, il y a une partie consommée, il y a une partie mise en réserve, soit pour des consommations futures ou pour des investissements. C'est cette partie mise en réserve-là qu'on appelle épargne. Maintenant, comme on l'a dit, on peut investir cette épargne, on peut la consommer. Nous nous occupons de la capacité des gens à investir pour générer davantage de revenus.
Alors donc, l'épargne, cette partie non consommée donc, de nos revenus, justement, pour éviter que cette partie ne soit thésaurisé, dorme quelque part, il faut réfléchir à comment créer de la richesse, n'est-ce pas? Alors, dans la recherche de créer cette richesse, on parle de bourse. C'est une manière aussi donc, de fructifier ses gains, n'est-ce pas?
Oui, oui. La bourse est un lieu où des personnes lambda peuvent placer une partie de leur épargne pour recueillir des revenus ou un complément de capital.
Alors, justement, pour aller en bourse, est-ce que cela est facile? Est-ce que c'est tout le monde qui peut donc aller en bourse?
Je dirais que tout le monde peut le faire. Il n'y a même pas de barrière de montant particulier. C'est juste que il faut une bonne formation, une bonne connaissance du sujet. Sinon, en termes de procédure, en termes de dépenses, il n'y a vraiment pas grand-chose à mettre sur la table pour pouvoir être investisseur en bourse.
Alors, la bourse, on entend parler, la bourse, c'est quoi?
Bon, pour comprendre la bourse, il faut présenter déjà une notion qui est le besoin en financement des agents économiques. Je vais essayer de m'étaler un peu dessus pour que les auditeurs puissent mieux comprendre. Pour se développer, les entreprises et les États ont besoin de capitaux. Ces capitaux peuvent l'obtenir dans le système classique, les banques notamment, les emprunts. Ou bien elles peuvent travailler pendant des années, accumuler des bénéfices et utiliser ces ressources-là pour financer leurs activités. On appelle ce mécanisme-là l'autofinancement. Mais face à leurs besoins de capitaux, les deux solutions que j'ai citées tantôt, c'est-à-dire l'autofinancement ou le recours à l'endettement bancaire, peuvent présenter des limites. Par exemple, une entreprise a besoin d'argent pour financer des projets qui s'inscrivent dans la durée. Quand vous allez à la banque, les banques ne vous financent pas dans la durée. Je vais donner quelques chiffres. Seulement 3% des crédits accordés par le système bancaire ivoirien sont des crédits de plus de 5 ans. Seulement 3%. À l'opposé, 61% des crédits sont des crédits de moins d'un an. Quand une entreprise fait une usine, vous pensez vraiment qu'elle peut utiliser des ressources de moins d'un an pour faire une usine qui sera rentabilisée dans la durée? C'est pas possible. Donc, il faut une adéquation entre la nature des ressources et le projet d'investissement par derrière. Grâce à la bourse, les entreprises ou les États peuvent obtenir du financement long, c'est-à-dire du financement qu'elles auront à retourner aux investisseurs sur de longues périodes, 5 ans, 10 ans. Je donnerai quelques exemples. L'État de Côte d'Ivoire a obtenu en 2017 un financement sur 10 ans, 2017-2027 à la BFVM. CIFCA a obtenu en 2013 du financement sur 8 ans, l'État du Sénégal du financement sur 7 ans.
La BFVM, il faut préciser, c'est la Bourse Régionale de Valeurs Mobilières. Hein?
Voilà. Donc, dans la suite de ce que nous disions, la bourse permet d'obtenir du financement, certes, mais plus précisément, du financement sur une période plus grande que les instruments classiques. Un deuxième aspect aussi, quel est l'intérêt pour les entreprises d'aller en bourse? C'est au niveau des montants. Les banques ou bien l'autofinancement, si je prends le cas de l'autofinancement, une entreprise peut avoir conservé des bénéfices, c'est vrai, dans le temps, mais les projets qu'elle veut réaliser sont d'une ampleur telle que généralement l'argent dont elle dispose ne cadre pas. On le voit même avec les particuliers. Vous voulez acheter une maison, le prix de la maison n'a rien à voir avec le montant de vos économies. Donc on se retrouve vers les banques pour obtenir ce financement. Sauf que les banques ont des contraintes réglementaires qui ne leur permettent pas d'accorder une enveloppe importante en concurrence des projets des acteurs. Donc elles sont obligées des fois de se regrouper en pool bancaire pour accompagner un acteur. Au niveau de la bourse, c'est complètement différent. Une entreprise peut venir élever 59 milliards, comme l'a fait Aura Group, sur le marché financier. Donc, la capacité à obtenir des fonds est plus importante parce que c'est plusieurs investisseurs comme vous qui donneront leur argent à cette structure-là. Donc, deuxième idée derrière la bourse, la capacité à mobiliser plus de financement que dans le système classique.
Donc, pour vous résumer, c'est un lieu où des structures viennent pour capter des financements.
Voilà, obtenir du financement à des conditions meilleures que dans le système classique. Conditions en termes de durée et en termes de proportion de fonds. Mais il faut vraiment retenir que c'est cette notion de besoin financement. La bourse n'a rien d'ésotérique, c'est juste un lieu pour obtenir du financement, mais à de meilleures conditions et auprès d'investisseurs grands public comme vous.
Ça veut dire que le taux là-bas est plus intéressant.
Au niveau du taux, c'est plus intéressant pour celui qui place son argent. Mais pour ceux qui lèvent l'argent, il y a peut-être une petite différence. Le taux moyen, par exemple, de financement des grandes entreprises au niveau du système bancaire est entre 6 et 7% selon la Banque mondiale. Au niveau de la BFM, quand il lance un emprunt obligataire, c'est à peu près la même chose, 6,5. Donc le coût de l'argent est à peu près le même, mais la durée n'est pas la même. Donc on peut avoir du financement sur 10 ans en bourse, j'ai envie de dire assez facilement, mais en banque, c'est beaucoup plus compliqué. Et au niveau de la proportion aussi, on peut avoir 50 milliards, 80 milliards en bourse. C'est assez possible, mais en banque, c'est très compliqué.
Très compliqué, vous l'avez compris, mais pour mes auditeurs, il ne faut pas avoir peur. Justement, l'objectif, c'est de permettre à l'expert que nous rencontrons chaque semaine de mieux vous expliquer un peu cet univers. On se retrouve la semaine prochaine dans la même émission Économie. Allez, portez-vous bien, au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.